Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh, oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti.
John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion.
But I know you people don't understand what kata nai daro.
Cette superbe envoi par la
sur la troisième corde de ton camp,
Philippe. Allez, parce que ça
va vite,
ça va
très vite. On est là tous les deux.
Oh oui,
on va voir ce qui est passé.
Par sur la troisième corde.
Mais c'est pas tout, on y arrive.
Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de KatchaCast. Petit numéro, on continue la tradition des résultats de show, de PPV, de pay-per-view. Et en l'occurrence, cette fois-ci, après le retour sur le G1 Climax, on va revenir sur un show beaucoup plus récent que vous aurez dans vos oreilles, parce que le G1 Climax, c'est un petit peu le bilan de l'été, quoi. Vous recommencez doucement et bim, on arrive avec un récap de longue haleine, et là on va peut-être faire un peu plus court, et en parlant de faire plus court, bon ça dépend de avec qui je serai, je suis avec Félix. Coucou.
Coucou.
Tu vas bien?
Ça va.
Ouais, un peu mieux que le show qu'on vient de voir.
J'avoue, on vient de sortir de All Out, et voilà, on est un peu éreintés tous les deux, mais on va vous expliquer pourquoi.
Ouais, on va essayer de faire ça, on va toujours dans la joie et la bonne humeur, et l'alternance entre le troll et un minimum de sens critique, comme dirait un certain site. Alors, All Out, c'est quoi, pour ceux qui débarqueraient? Donc c'est le, si on compte pas le partenariat avec la CEO, c'est le troisième show,
ouais,
de la AEW, donc cette fédération dont la création ligne éditoriale artistique est chapeautée donc par nos amis de The Elite, Cody de Nightmare Road, Brandy, Sacha Rétendre, Kenny Omega, les Young Bucks, et voilà, et c'est déjà pas mal. Et en l'occurrence, on a eu le tout premier qui était...
Alors, sans compter All In, qui était l'an dernier.
Voilà, All In, c'était vraiment le premier l'an dernier.
Sous l'étiquette All Elite Wrestling, il y avait c'est... Double or Nothing.
Voilà, c'est ça.
Après, il y a eu Fighter Fest, donc le partenariat avec la CEO.
Ouais.
Le festival de jeux vidéo combat.
Très bien, tu précises.
Et puis après, il y a eu le show caritatif Fight for the Fallen.
Voilà.
Et puis là, All Out, pour être le dernier gros show avant les débuts à la télévision. Et
ça, c'est important, ouais. Parce qu'on va revenir sur ce point-là qui, pour nous, je pense que ça doit commencer à s'entendre dès le début et pas très, très, très rassurant. On va faire, de toute façon, progressivement la carte et puis on vous distillera ce qu'on en pense par rapport à ça. Deux premiers shows de pré-show, on va dire. Yes. Battle Royale féminin.
Donc,
Casino Battle Royale. Donc, intéressant, on va dire, sur le papier, dans le sens où les Battle Royale féminins sont pas légion, mais dans l'exécution, très beauf. Dans le sens où, on a gardé les mêmes travers, on a quasiment les mêmes réactions que quand on a regardé le Battle Royale de Double or Nothing, qui est que la venue simultanée de plusieurs catcheurs, l'entrée, pardon, simultanée de plusieurs catcheurs, est très mal exécutée à la AEW. Ça veut pas dire qu'en soi c'est une mauvaise chose, et je te laisse prendre le relais là-dessus, parce que t'as pas mal détaillé.
Leur pari à la AEW, c'est pendant une Battle Royale, c'est de pas te faire venir comme classiquement un catcheur l'un après l'autre, chacun son tour, c'est de faire des petits groupes de 5 et de les envoyer par paquet,
c'est ça.
Sauf que tous ces personnages, donc parmi eux des surprises ou des non connus, ils arrivent tous en même temps, donc il n'y a pas vraiment de spotlight qui est mis sur une catcheuse, parce que là c'était que des catcheuses en l'occurrence.
Il n'y a pas spécialement de thématique non plus qui les rassemble. Il n'y a pas d'idée de feu de l'avenir. Il y a un petit rassemblement très très aléatoire.
Sauf à la fin, finalement, oui. Le dernier groupe était un peu des catcheuses plus connues, genre Ivelisse.
Ouais, ça j'étais content de l'avoir.
Il y avait Beatrice Lee, etc. Quoi. Et puis c'est difficile aussi au niveau production. Parce que non seulement c'est une battle royale, donc il faut fixer plein de gens en même temps au niveau montage et compagnie.
Ouais.
Mais alors quand il y a un groupe, pour montrer toutes les têtes du groupe qui viennent d'arriver, je trouve ça encore plus galère. Hein, donc ils se tirent une balle dans le pied, je trouve, pour ce genre de concept.
Complètement. Et puis tu pointes un autre détail sur lequel on reviendra, je pense encore, la caméra. Quoi. C'est chaud hein, niveau réel.
J'ai l'impression qu'il y a eu des petits progrès.
Ouais.
Par rapport à Double or Nothing,
c'est
par exemple.
C'est plus constant, oui.
Mais ça reste encore des écueils.
Quand tu vois les mastodontes, vu que. Alors, on précise, hein, pour ceux qui se disent laissez-leur le temps, machin. On part quand même d'un principe très bête et méchant qui est on part des déclarations de Cody, parce que c'est un des plus. J'allais dire vocaux, c'est pas français, mais le plus gros porte-parole, on va dire, de la team The Elite. Et on essaye de se dire, est-ce que les attentes... On n'est pas là défoncer pour défoncer, on est vraiment dans un truc où on est les premiers à en entendre beaucoup de choses, et on aime bien la plupart de l'équipe créative et au-delà, mais objectivement, dans l'exécution, sur cette promesse réelle, on va dire, plus sensiblement équivalente au grand... pour en citer que deux, donc la WWE et la NJPW, on est quand même, surtout la NJPW, on est à des années-lumière, quoi. Y a un sacré boulot.
Clairement.
Et puis des trucs quand même impardonnables, du genre une action quand même très centrale, qui est cutée pour une action qui sert à rien, quoi. Genre un catcheur, une catcheuse aux abords du ring qui est en train d'avoir mal et qui ne sert absolument pas à la tension dramatique. Donc là, il y a beaucoup de boulot à faire. Sur le Royal Rumble en tant que tel, qu'est-ce que tu retiens
Rumble. Bah, pas grand-chose, honnêtement. C'était sympa de voir, Mercedes Martinez, par exemple, à la fin, elle avait un beau spotlight, parce que c'est quand même une catcheuse assez expérimentée, on va dire, et qui mériterait d'avoir plus de chance.
Tout à fait.
Parce qu'elle a été pas mal au Mae Young classique à la WWE, mais après ça s'est arrêté là. Donc j'espère que ça ira un peu plus loin pour elle. Et puis c'était un beau spotlight aussi pour Nyla Rose, qui a remporté le match. Ça peut augurer de bonnes choses sur le fait que on peut avoir quand même pas mal de talents dans cette division féminine qui partait pas forcément super bien. Il y avait des bonnes choses, mais c'était très limité. C'était pas du niveau de la division féminine de la WWE, par exemple. Mais à part ça, voilà quoi.
Soit trop isolé, soit encore doit faire ses preuves très fortement. Je pense à Ali, donc Ali Wrestling de son complet et sa sosie là, donc
Britt Baker.
Pour l'instant, on attend toujours quoi, au niveau de l'exécution et compagnie. Soit les spots sont pas là, soit quand elles ont un spot, c'est pas foufou. Bon, tu me diras, Ali, le premier gros spot qu'elle a eu, c'était la fois précédente et c'était face à Brandy.
Brandy, c'est pas
au secours, quoi.
La meilleure. Hein.
Oui. Et puis en plus avec la restriction, enfin l'aide de Awesome Kong aux abords du ring. Enfin voilà, c'était très mal maîtrisé. Bref. C'est vrai que je l'ai oublié malheureusement. Brandy était, je ne comprends pas pour qu'est-ce qu'elle venait foutre là. Elle était dans.
Je pense qu'elle essaye encore et toujours d'être un peu catcheuse parmi ce groupe-là qui sont à la fois des exécutifs, des producteurs, mais aussi des catcheurs. Et elle a envie aussi d'essayer de se donner un peu à fond comme eux. Mais clairement, elle n'est pas au même niveau que même qu'une Britt Baker ou qu'une Nyla Rose. C'est gentillet. Et je trouve que l'association Brandy Awesome Kong peut être pas mal parce que si elle devient sa manager, ça peut un peu l'écarter tout en lui donnant un rôle actif.
Une petite Inception inversée pour ceux qui auront vu Glow.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais au-delà de ça, faudrait qu'elle reste un peu à l'écart, quoi.
Ouais, le pire, encore une fois, on s'appuie vraiment sur les déclarations de l'équipe créative. Elle avait dit elle-même lors du match contre Ali, ou alors c'est moi qui ai yoyoté, que c'était vraiment exceptionnel et que c'était genre pour la tester. C'était un truc du genre, je viens prendre la température, mais c'est vraiment exceptionnel. Sous-entendu, si on suit vraiment la guéguerre et les parallèles de ce qu'ils reprochent et ce que les fans reprochent à la WWE, je vais pas vous faire une Stephanie McMahon. Je vais pas venir en mode équipe productive qui sait pas spécialement catcher, voire pas du tout, et qui vient se mêler aux professionnels. Bref, donc à suivre. Seul truc intéressant, on y reviendra après pour le match Joshi, donc des catcheurs japonais. Il y a un lien, il y a une forme de lien. C'est le seul truc de la soirée d'ailleurs où il y a un lien cohérent.
Et parce on que y reviendra pour remettre dans le contexte, même si c'était vachement mal expliqué, je trouve, pendant le pay-per-view, c'était que la gagnante de cette Battle Royale, donc Nyla Rose, serait, serait la première en lice pour concourir au championnat féminin. De l'AEW et la gagnante ensuite du combat solo entre les deux japonaises
Yoshi,
serait son adversaire.
Voilà. Donc on y reviendra
pas
juste
très,
après.
Très clair, quoi.
Non, mais malheureusement globalement jusqu'ici au niveau AEW, même si tu es fan de catch de base, il y a rien de vraiment clair sur des annonces quand même fondamentales qui sont des attributions de titres, qui sont des on va dire des rendez-vous pour un prochain show. Donc t'imagines, tu débarques en mode catch.
Oui, par exemple, rappelle-toi la le un peu le big reveal de la ceinture féminine.
Oui.
C'était un peu sur un plan cuté
dégueulasse.
On a un gros plan de la ceinture dans une cage de verre
avec en plus mal calé au niveau de sa disposition parce que les lumières éclairées, on sait très bien que dès que vous filmez un écran, même si vous êtes pas vidéaste ou quoi que ce soit, les reflets tu vois rien quoi. Ouais. Donc et puis déjà, enfin, il y a plein de trucs, c'est hallucinant, tape sur les doigts, mais pour ceux qui ont regardé, le reveal de la ceinture des champions par Bret Hart à l'époque, où il y avait que des cuts dégueulasses, où on n'a quasiment pas vu le
la
design.
Ceinture.
Moi, j'ai eu besoin d'aller sur Twitter pour voir une photo
ça, ils l'ont
nette.
Dit, ils l'ont dit après
l'ont
qu'ils
dit,
avaient
oui.
merdé, et après, ils avaient fait plein d'images super belles de la ceinture. Mais c'est un peu ça. J'avais vu la conf de Cody là, pendant le Starcast, donc tout le festival qu'il y a autour du show, et ils disaient qu'en fait, ils vont, et ils assument, ils vont enchaîner des erreurs. Parler de la bibliothécaire qui était dans le match d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs, parce que ça c'était un des premiers trucs sur lesquels les fans ont chié quoi, parce que c'était vraiment débile et c'est pas ce qu'ils attendaient quoi.
Et surtout qu'elle catchait mal quoi.
En plus.
C'est malheureusement, alors qu'objectivement sur les autres matchs que j'ai pu voir d'elle, ça allait quoi. Sur son personnage. Mais bon. Mais après, c'est vrai que jusque-là, ça restait pas une catcheuse très très régulière. C'était plus une. Alors peut-être pas une Weekender, on va dire, ou une Roddy.
Son truc, c'était plus les gimmicks et jouer avec le public. Quoi.
Oui. Mais bon, bref.
Et là, c'était too much.
On verra bien, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'erreurs enchaînées. Moi, ma grosse crainte, et j'arrête les parallèles là pour l'instant, c'est que à force de charger la mule sur tous les fronts au niveau com, parce qu'il faut, pour ceux qui suivent pas à côté, qui regardent uniquement les shows, vous avez la chaîne de All Nightmare Cody, vous avez la chaîne The Elite qui continue et qui maintenant est devenue focalisée sur la promo, c'est logique, de la EW. Vous avez tous les à côté et je pense qu'ils se dispersent. Ils se dispersent et ils devraient se concentrer pour avoir déjà un show irréprochable et progressivement ajouter des featurettes promo, quoi.
Ouais, et puis en plus, on revient toujours aux promesses de départ qu'ils assument jusque-là, alors qu'elles ne sont pas totalement tenues sur on va présenter un produit vachement sportif, vachement réaliste,
ça c'est...
avec des stats, genre la New Japan, mais plus. Et total, les pauvres stats de victoire-défaite, on les a eu que sur ce show-là et elles ont importé zéro, quoi.
Mais après, là-dessus, je pense
comment
qu'on...
ça va être à la
voilà.
télévision.
Je pense qu'on est un peu dur, mais ils ont tenté ça. C'est un des trucs
positifs.
C'est
vrai qu'on est vachement exigeant, mais en même temps, c'est la promesse du truc qui demande cette exigence. Parce qu'il y a du budget, parce qu'il y a beaucoup d'attentes.
Là-dessus, je les sabrerais moins que toi. Ils ont au moins le mérite d'avoir ce petit truc au niveau de l'habillage, les effets d'annonce et machin, c'est amélioré, c'est
etc.
propre.
Rome ne s'est pas faite en un jour, comme diraient les vieux.
Non, mais il y a une nette amélioration aussi des Titantron, donc les écrans de présentation des personnages. Tu sens qu'ils ont mis les moyens. Et encore une fois, malheureusement, même sur ce côté positif, on peut pas s'empêcher de rager, parce que je t'ai vu notamment pour ton trio chouchou qui est la Jurassic
Express
où on commence avec une super intro référence Jurassic Park à fond les ballons, et puis au moment où on est à fond dans le Titantron, ils coupent et ils reviennent sur la scène, mais
où les catcheurs sont arrivés depuis 30 secondes, voilà, et loupes leur vraie entrée de base.
Il y a des gros soucis de timing encore.
En fait, c'est très disparate, je trouve. On en reparlera peut-être plus tard, mais juste pour fermer la parenthèse, c'est très disparate parce que, par exemple, pour ce genre d'acte, comme on dit dans le jargon, c'est fait un peu à la va-vite. Alors que quand tu vois une entrée pour Cody et Sean Spears, son adversaire dans la soirée, c'était vachement plus timé, vachement plus travaillé. On sent qu'ils ont vraiment répété le truc pour être parfait.
Mais il n'y avait pas de Titantron.
Ouais, justement. Mais c'était pas le truc, mais il y avait quand même tout ce travail sur la production qu'il n'y avait pas sur les autres.
Ouais, mais c'est intéressant quand on reviendra au match de Cody et de Spears. Ce que tu viens de dire, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça. On enchaîne avec le deuxième match donc du pré-show, kick-off. Yes. Donc c'était les parties.
La fête privée.
La fête privée, private party, excuse-moi. Et donc effectivement, Jack Evans et Angelico. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, honnêtement, c'est un des meilleurs moments de la soirée. Franchement,
parce que c'était facile à digérer.
Exactement.
Pas de prise de tête.
Pas trop long.
Littéralement, pas de prise de tête. D'ailleurs.
Voilà, c'est ça. le lancement des deux, on parlait de Titantron, est relativement bien exécuté. Ouais. Leur entrée, le catch en soi, des moments rigolos. Les deux équipes assurent très bien niveau voltige, mais sans que ça soit, on y reviendra après, dans les longueurs extrêmes avec nos amis Young Bucks et les Lucha Bros.
Yes.
Non, franchement, pas grand chose à
même,
dire.
On a même eu le droit à un petit post-match un peu intéressant où,
tout à fait.
Suite à la victoire des jeunes Private Party. Angelico
avec un final, mais enfin le
combo de Hurricane Rana.
Regardez, ça vaut le coup rien pour le finish.
J'avais peur du botch, mais ils ont bien assuré. Et on pense à toi, Mickaël, pour les botch. et finalement, donc serrage de main, etc. Le truc classique, super exploité jusqu'à l'os. Là, ça commence à m'énerver. Et ils m'ont prouvé. Que j'avais raison en organisant un heel turn. Donc Angelico et Jack Evans se placent total comme des heels de base.
Ouais.
Et ça peut-être lancer une série de matchs entre les deux qui pourrait être sympa.
Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire, même globalement en tant que heel pour Evans.
Et puis là, je crois qu'ils vont démarrer le tournoi pour les nouveaux titres par équipe quand ça va démarrer à la télé en octobre. Donc je pense que ça peut donner des bons trucs.
Ouais. Très bien, très bien. Donc nous arrivons sur les main events dont je vais te laisser, pas par flemme, mais par souci technique, faire les annonces.
Le main show, juste après une petite interview de MJF.
Et son écharpe.
Fixé sur les boobs de l'interview.
Ouais, j'ai bien aimé parce que t'as pas tiqué au début.
Ouais, moi j'étais sérieux.
Mais.
Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il regarde, quoi.
Ouais, il est super intense.
Mon esprit tordu n'était pas encore enclenché.
Non, c'est ça. Bon, après, c'est les trucs.
C'était que le début de la soirée.
Effectivement. C'est des trucs qu'on regrette, mais après, le personnage est tellement vendu comme ça, comme un neuneu, que bon, là, ça
moi,
passe
ce qui
un
me
peu.
Dérange. Bon, après, c'est la complexité du personnage, on en reparlera plus tard, parce qu'il va avoir un rôle plus tard dans la soirée. C'est que c'est vraiment le heel le plus dégueulasse du monde. Il est capable de se moquer des handicapés et tout ça sans problème. Mais par contre, c'est le meilleur pote de Cody. Et quand il est avec Cody, c'est
il
vraiment
perd toute substance. Ouais.
Il devient un babyface total. Alors c'est pas mal, ça ramène des dimensions différentes au personnage. Mais pour un heel aussi virulent, c'est hyper galère pour le public.
Il faudrait une vraie narration en fait pour que ça fasse sens. Mais
ces
alternances-là.
C'est ce qu'ils essaient de faire dans les featurettes entre les shows. Mais...
Oui, ça je suis beaucoup moins que toi.
C'est galère.
Donc, et c'est problématique au niveau du ticket d'entrée, effectivement, là ça passe pas. Typiquement, moi je regarde pas alors que je le connais, que tu m'en parles, et ça passe pas, ça me perd quoi, dans ces moments-là. Donc oui, on parlait effectivement.
Donc, premier match.
Toujours. Et j'avais fait une petite remarque d'ailleurs, au-delà du côté classiquement entre guillemets sexiste, mais bon, c'est une partie du personnage, c'est pas pour justifier effectivement le truc, c'est qu'il est neuneux et qui a tous les sens du terme. C'est que je trouve que les annonceurs et les annonceuses sont pas trop teubé sur les bords, et même si ça reste du catch et globalement il n'y a pas besoin d'un acting de dingue, ça fonctionne bien. Enfin, ça, c'est une petite remarque que je me faisais, parce qu'en général, les nanas au micro dans la WWE ou même ailleurs, c'est pas folichon, quoi. Tu sens qu'elles ont, ils et elles ont un sens de l'humour quand il y a ces petites séquences, et que voilà.
Enfin, c'est plutôt là, pour le coup, on a le côté un peu sportif du truc.
Oui.
C'est vraiment, ils sont sérieux, autant au commentaire qu'à l'interview, genre de truc. Y a pas, ça paralyse pas un peu le, ça parasite pas pardon le reste, quoi. Donc
ouais, je te rejoins, et donc on en arrive au match.
Donc, ouais, match d'ouverture du main show, c'est un match six man tag. Donc c'était les Jurassic Express, où j'ai marqué direct quand j'ai vu les dinosaures à l'écran, et
je confirme.
Oh là là, super. Non, la petite parodie de Jurassic Park
avec le verre d'eau. Forcément.
Voilà. Donc la venue de Luchasaurus, mon nouveau catcheur préféré, et ses deux boys.
Jungle. Donc,
Jungle, boy, et puis Marco Stunt, le plus petit catcheur du monde.
Et le meilleur danseur de Fortnite au monde.
Aussi. Et puis en face, les petits SEU, comme on aime, Christopher Daniels, Scorpio Sky.
Toujours impeccable.
Et Frankie Kazarian.
Toujours impeccable. Pareil, pas grand chose à dire. Globalement, bon rythme. Il y a une séquence aussi incroyable avec Chazorus qui nous fait un truc à la limite à la Jet Li. À un moment avec des, où il les contre avant même qu'il place des coups de poing, uniquement avec un des kicks.
Ouais, il en tient un, il met un coup de pied à l'autre.
C'est...
Un chokeslam ouf.
Un backflip impressionnant. Vraiment, il continue. En plus, avec son physique assez atypique, très grand et très baraque.
Ouais.
C'est vraiment une valeur sûre. Enfin, moi je continue de le suivre de très près depuis que je l'ai découvert.
Moi j'espère juste que, parce qu'on le voit sur Being the Elite avec sa bande un peu chelou de Jungle Boy et compagnie, Jungle Boy qui est muet sur Being the Elite, on sait pas pourquoi, et Luchasaurus il a ce gimmick de toujours rappeler qu'il a un master.
Ah oui, tu m'as dit.
Il met ses lunettes par dessus son masque et il dit que j'ai un master.
Mais genre master ou doctorat?
I have a master's degree.
Ouais.
Donc c'est un peu bizarre à côté de son personnage de Luchasaurus, qui est vraiment incroyable.
Ça sort de nulle part. Au moins un PhD, ce serait, il est fan de Ross, de Friends.
Ouais, il pourrait jouer les paléontologues carrément.
Oui,
ça aurait plus de cohérence pour le coup. Et il dit je suis le meilleur des deux mondes, des dinosaures et des catcheurs, tu vois.
Appelle-nous, Cody, on peut t'aider pour le script writing. On est là pour toi, bébé. qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, globalement, ça marche. SEU impeccable, malgré leur jeune âge.
Daniel Jurassic,
incroyable. Hein, parce que ce que j'ai pas arrêté de te dire pendant le match. Non, pas grand chose à dire. Beau moment, très bien rythmé.
C'est dire pour la suite de la soirée.
Et j'ai envie de dire déjà, je crois que juste après ça commence, quoi. Et là, c'est le drame.
Deuxième match. Traditionnellement, c'est le moins respecté des matchs de la carte.
Ouais, le moins climatique.
Peut-être qu'ils essayent de casser cette tradition-là.
Je pense aussi.
Parce qu'on nous offre Kenny Omega contre Pac. Pac qui est le remplacement de John Moxley.
Et qui était John Moxley, anciennement Dean Ambrose. Et Pac était anciennement donc
Neville,
effectivement, à la NXT, puis au main show. Et à 205 surtout.
Yes.
Et donc effectivement, même surprise que toi, c'est un peu tôt.
pourquoi pas.
Et au-delà de ça, bon, comme tu dis, pourquoi pas, quels sont les codes et tout. Par contre, réaction du public.
Kenny Omega tranquillou,
oui, ça, de
avec son team song vraiment parfait.
Ouais.
Et Pac,
une mer d'huile, quoi.
Et des huées hyper timides, donc c'est la pire réaction qu'on puisse avoir.
C'est ça.
Vraiment en mode rancunier, quoi, parce que pour remettre dans le contexte.
On a supposé,
Ouais, c'est ce qu'on a supposé très bien, tous les deux, parce que pour remettre dans le contexte, à la base sur Double or Nothing, ça devait être Pac contre Hangman Page, qui sera dans le main event, et ça devait être un match vachement sérieux et important, et Pac qui a refusé d'y participer de peur d'être le perdant, parce que Hangman Page, c'est un peu le protégé de la bande de The Elite et tout ça, c'est. Le futur ace de l'AEW. Et Pac, qui était champion de la Dragon Gate, ne voulait surtout pas perdre.
Tu me disais même qu'il y avait des enjeux de la Dragon's Gate qui faisait pression pour que tant qu'il soit sacré.
À la fois la Dragon Gate et Pac aussi lui-même.
Et lui, d'accord.
Genre quand tu le regardes à la Rev Pro et compagnie, il a eu que des matchs à time limit draw.
D'accord.
Justement pour pas perdre et pas vraiment le côté un peu old school.
D'accord.
De, non, je suis champion.
Je suis invincible partout.
Vous pouvez pas me faire perdre, quoi.
Ouais.
Si je dois perdre, c'est contre un gars de la Dragon Gate qui va être élevé par cette victoire.
Et ça a été le cas.
Et ça a été le cas contre Ben Kay cet été. Super match d'ailleurs, si tu l'as pas vu.
Non, ça sera. Tu m'as hypé.
Voilà.
Et puis ça me permettra de me nettoyer de cette all-out.
Ce all-out. Non,
j'exagère.
Et donc voilà, il a été mis en remplacement. Je pense que ça devait être une surprise de la soirée. Mmh. Ça a été un peu en remplacement in extremis à cause de l'infection au staphylocoque de John Moxley.
Mais ils avaient quand même fait une petite promo pour annoncer.
Ouais. Et donc je pense que le public était un peu. En mode, on va te faire payer le fait que tu nous as lâché.
Toi, tu l'as vraiment ressenti débile, comme ça. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression limite d'avoir un désintérêt global, mais un truc, voilà, c'était pas prévu. Et bon, je sais pas. Mais je pense que ton explication est plus crédible que la mienne.
C'est gentil.
le match en soi, bon, j'ai envie de te dire, à part un botch très vilain d'un Rana excessivement mal placé du style, vous savez, c'est ce genre de moment en tant que fan de catch où vous dites j'ai pas envie de regarder, pas même pas parce que ça fait mal, mais parce que je me sens mal par rapport à toi, quoi, parce qu'il y avait pas eu de
danger de leur part, quoi, parce que...
enfin j'ai mal pour eux, ouais, j'ai honte à
c'est
leur
genre,
place,
c'est pas du tout de la haine ou quoi que ce
non,
soit
non,
c'est
mais
genre
pas.
Les pauvres,
ouais,
quoi,
ouais,
c'est censé être parmi les meilleurs catcheurs du monde et ils te font un gros botch sur un show aussi important,
ouais,
ça pas pour l'amour propre, c'était dur, quoi,
ouais. Sachant qu'ils avaient mis la barre très haut, très vite, puis qu'après on se retrouve,
ouais,
avec un creux.
Ouais, parce que le match, moi, était très long. C'est,
ouais,
un peu le running gag de la soirée, je trouve.
Et c'est le running gag de la AEW, hein, pour l'instant.
Ouais, jusque-là, ouais, les matchs sont très longs. Et Cody l'a répété en conférence, ils ont dit le gros point fort de leur show télévisé, ça va être les matchs. Donc je sens que ça va être des longs matchs sur la TNT. Mais oui, gros botch, et puis en plus, on enchaîne tout de suite sur le finish. Parce que c'était juste après le finish, si je m'en souviens bien. Une grosse prise de soumission un peu chelou de Pac. Et
le Brutalizer.
Ouais, Brutalizer, on ne sait pas pourquoi. Et Omega qui s'endort. L'arbitre qui arrête le match. C'était un peu bizarre, quoi.
Très bizarre, grosse stupeur du public et de nous aussi. Ouais, bizarre.
Au moins, peut-être que ça augure le fait que Pac va rester.
Oui, je pense que s'ils font
pour
pas ça, ça n'a...
Sa revanche,
ouais,
ou...
ça n'a vraiment aucun sens. Quoi.
Ouais.
Vraiment aucun sens. J'espère. Moi, je touche du bois que ça aille dans ce sens-là, de devenir un peu comme ça, toucher le roi, on peut dire ça comme ça, avec Kenny. Mais bon, globalement, après, faut pas bouder son plaisir. Si vous aimez les deux catcheurs, si vous voulez quand même des spots assez impressionnants.
Ouais, non.
Ouais. Il
ça
reste,
valait le coup quand même.
Oui, il reste quand même, ça reste quand même un bon match.
Après, j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont faire de Kenny Omega, parce que là, pour le coup, il avait un adversaire à sa taille. Parce que bon.
Contre Shima, c'était pas mal aussi.
Oui.
Hein, ouais.
Mais c'est pas encore du level du Kenny Omega.
Contre Okada, oui,
contre
évidemment.
Contre Okada, c'est... et contre Naito,
ouais,
et contre Ibushi.
Bien sûr.
Et je pense qu'il devrait vraiment capitaliser là-dessus, plus que juste dire c'est un match d'Omega et ça va être bien, quoi.
On verra.
Ouais.
On verra. Mais bon.
Qu'est-ce que c'est?
Ensuite,
nous avons le Cracker Barrel Clash.
Oh là là, ouais.
Donc, un match sponsorisé par Cracker Barrel. Donc, une marque américaine de tonneaux remplis de bouffe. Et donc, c'était un match hardcore, mais pas déclaré comme hardcore de base.
Ouais, c'est
mais
très
qui est
bizarre.
Devenu très vite. Ouais, c'est très bizarre. Encore une fois, c'est pas très clair. Donc, c'est les trois gars hardcore qu'ils ont sur leur roster.
C'est
donc,
ça.
C'est
Jimmy Havoc.
Jimmy Havoc, l'anglais.
Ouais.
Joey Janela, le petit foufou.
Et mon petit chouchou.
Et notre petit
notre,
chouchou.
Excuse-moi, pardon.
Partage-le avec moi quand même.
Voilà, t'inquiète pas, on a la garde alternée.
Darby Allin.
Ouais, d'accord. Confus, on va dire. C'est le mot qui me vient pour l'instant. Le temps de retrouver mes esprits, je te laisse peut-être commencer
le
sur
début,
ton avis.
Par exemple, Jimmy Havoc se fait s'agrafe lui-même l'épaule en mode on y va, et puis finalement il se fait dégager du ring, et puis c'est tout. C'est bizarre.
Étrange. Et plein de spots comme ça, on enchaîne juste derrière avec un spot où il le pose sur une chaise et tu comprends pas parce qu'il lui verse des punaises.
Dans la
est-ce
bouche.
Que les punaises
la bouche
on sait même
ouverte.
Pas. Ouais, est-ce que les punaises sont dans la bouche, est-ce que et après il lui met t'as un moment aussi epic fail où t'as Janela qui essaye de lui mettre du scotch sur la bouche mais ça marche pas.
En gros plan.
Il y a plein de trucs, ça.
C'est
vraiment le moteur de bagnole qui tout saute pour le démarrage.
Et puis le spot fest vraiment
ouais
sans réel enjeu ou histoire.
Pas du tout, pas du tout.
Alors que les personnages sont quand même établis.
Ouais.
Joey Janela, c'est le foufou qui est prêt à tout.
Il y a de quoi faire, ouais. Il y a vraiment de quoi faire.
Jimmy Havoc, c'est celui qui a peur de rien et qui peut aller faire du hardcore dur, dur. Et Darby Allin, c'est celui qui est capable de sortir des
moves, mais
des moves et des bumps horribles.
Ouais.
Ouais. Et puis qui a vraiment un côté grunge dépressif.
Ouais, quand on voit son match contre Cody, c'est dommage quoi. Il y a un monde, on va dire. Il y avait une vraie symbolique, moi je trouve, pendant ce match-là, le bump sur le dos sur le bord du ring, sur The Apron,
ouais.
La housse mortuaire. Enfin, il y avait un truc quand même qui bon. J'étais perdu tout au long du match. Il y a eu notamment deux spots avec éclatage de tonneaux qui étaient pas foirés en tant que tel, mais ratés dans le sens où tu voyais clairement que l'adversaire qui était sur le tonneau s'était déjà barré dans chaque cas. Et du coup, ça donnait un truc. Enfin, il y a aucune intensité.
Un coup,
quoi.
Le tonneau, il est tout léger, et un coup, le tonneau, il est tout lourd.
Ouais, voilà. C'est...
Paye ton kayfabe, quoi.
C'est pas top.
Et puis le moonsault aussi qui nous a fait éclater de rire, de Joey Janela qui
tombe oui.
complètement dans l'eau.
Oui, parce qu'il y avait une table, alors il faut qu'on l'explique quand même.
C'est le fait du montage en live aussi qui était mal fait, parce qu'on n'a pas vu que Jimmy Havoc s'était barré.
Ouais.
Et d'un coup, on voit juste Joey Janela qui s'éclate.
Mais c'est surtout qu'il y avait une table de poser avant qui était dépliée et qui est repliée entre temps, et il fait ce salto arrière où il atterrit, il se casse la gueule sur le bord du ring. Enfin bref. Bref, non, très très confus. Je sais même pas quoi en dire ce match-là. Ah, faites-vous une idée.
Rien de plus.
Faites-vous une idée.
C'était bien de donner la victoire à Jimmy Havoc parce que chacun a eu son moment de spotlight, sauf lui, parce que Darby Allin a eu son match contre Cody.
Janela contre Moxley.
Exactement. Et Havoc, il était un peu perdu. Donc
ouais,
c'était pas mal de rappeler qu'il existe. Quoi.
Surtout vu l'aura du bonhomme, quoi, dehors de la EW. C'est assez impressionnant. Peut-être qu'il se disait ça aussi. Genre, ça peut attendre. Donc, voilà. Bon, c'était pour rétablir le karma de Jimmy Havoc, on va dire, ce match. C'est un match d'équipe. Bon, voilà. Inutile de s'éterniser. Faites-vous un avis. Puis venez discuter avec nous sur les canaux des podcasts. Ensuite, nous arrivons
au
match
par équipe. Là, c'est pour recevoir un avantage dans le prochain tournoi par équipe, pour les prochains titres par équipe de l'AEW. Donc, c'est les Best Friends, Chuck Taylor et Trent. Et puis The Dark Order avec Evil Uno et Stu Grayson, donc Mini Kratos.
Un
match purement PWG.
Ouais.
À l'ancienne.
Très rigolard, mais en même temps avec des beaux spots.
Avec des beaux spots, parce que les deux équipes se débrouillent bien.
Complètement.
Avec un rythme un peu...
Ouais, en dents de scie, encore une fois.
Ouais.
Trop long, encore une fois.
Ouais.
Dommage. Mais non, vraiment, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Et puis, de toute façon, on y arrivera en conclusion. J'ai été forcément conquis. Je vous fais un petit teasing. Je te laisse le temps, Félix, peut-être de rajouter quelques trucs avant qu'on arrive à la fin.
Avant de balancer le jus. jeu de mots. Non, le Dark Order, je trouve que au début, quand ils ont débarqué à Double or Nothing, un peu de nulle part, et tout le public a dit Who are you? Who are you? C'était un peu film de série Z.
Ouais.
Là, ils commencent doucement à avoir un truc concret. On comprend un peu leurs intentions, on comprend un peu leur aura, ce qu'on est censé ressentir quand ils sont là, notamment avec leurs petits mignons là qui sont torturés,
ça,
qui servent d'escabeaux. Et puis Stu Grayson qui est vraiment impressionnant, Mini Kratos. Donc plutôt des bons points, je trouve. C'est pas un match de folie, mais encore une fois, construction d'une division par équipe qui tient la route, quoi.
Oui. Là, ça fonctionne bien, et j'ose espérer que c'est ce genre de match-là et le précédent qu'on a cité, donc en kick-off, qui permettra d'installer peut-être des matchs qui tireraient un chouïa moins long dans la durée, même si malgré l'annonce de Cody, j'y crois pas trop.
Mais qu'ils sont un peu trop longs.
Ouais.
Et en fait, il faudrait qu'ils les densifient un peu plus pour que le rythme soit plus effréné encore.
C'est ça.
Et qu'on soit vraiment waouh.
Ouais.
Parce que là, c'est oh bon.
Typiquement, moi, ce que j'aimerais, alors que c'était un hasard, hein, malheureusement, c'est que ça ressemble au match, je crois, où ils étaient à. Je sais plus si c'était en 2 contre 2 ou en 4, à la fin de All In avec Bandido.
Oui.
C'est Fantasmo ?
Non, c'était, alors, c'était Bandido,
Il y avait les Young Bucks.
Il y avait les Young Bucks et Kota Ibushi d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait Bandido, Phoenix et Rey Mysterio.
Rey Mysterio, celui-là était génial. Mais il était génial parce qu'ils avaient plus de temps. Et, et donc, le truc a dû durer 10-12 minutes.
Ouais.
C'était impeccable. Vraiment, moi, j'ai...
C'était waouh, quoi.
Oui, c'était waouh. Et puis, comme on dit d'autres camarades podcasteurs à droite et à gauche, c'est vraiment le genre de match, quelqu'un qui connaît pas le catch et qui est en mode, ouais, les coups sont pas portés, il y a pas de prise, il y a pas de machin, c'est pas plus spectaculaire que ça. C'est le genre de match que tu as envie de leur balancer. Il y a pas de, de monkey spot à l'extrême non plus. Ça marche très bien. Bref, en tout cas, vous avez notre idée, je pense, dans l'essentiel. On aimerait bien que ça aille vers ça.
Et donc, pour te faire ce tremplin,
le jus d'orange.
Donc, Dark Order, Dark Order qui gagne. Sans trop de surprises, je trouve.
Délicieux.
Délicieux.
Agréable.
La sauce monte. Voilà. Et donc après, qui attaque, parce que ce sont des méchants, qui attaque les meilleurs amis.
Best of friends.
Et là, la lumière s'éteint.
Oui.
Et qui arrive sur le ring.
Orange Cassidy, my boy. Enfin, on pourrait dire là aussi notre boy, parce qu'on l'aime beaucoup tous les deux.
Ouais, mais je te
le laisse plus. Ah, t'es gentil. T'es gentil. Non, non, c'est vraiment, je l'avais déjà dit sur notre émission.
Je le prends sur les week-ends et pendant les grandes vacances.
La vraie garde alternée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, non, vraiment, vraiment ma grosse révélation là, de ces derniers temps, bah, pendant le premier Rumble d'ailleurs, de l'AEW, et bah, il vient effectivement tataner les deux zigotos avec notamment un suicide dive, les mains dans les poches, s'il vous plaît.
Et ouais. Parce que c'est,
parce que c'est ça la classe. Et, gros, et puis gros hug final. Enfin, lui garde les mains dans les poches.
Bah oui.
Mais il sort quand même une main pour faire le pouce vers le haut.
Un petit pouce à
un
moitié.
Petit pouce vers le haut. Voilà. On essaiera, si on y repense, de vous partager une interview que je remercie le ciel, surtout Félix, de m'avoir fait découvrir, qui m'a fait pleurer de rire, qui est une interview de Cassidy où il est blasé comme jamais, contrairement à Maître Gims.
Ah, mais lui, le kayfabe est en lui, quoi. Il garde la face, il garde le personnage jusqu'au bout.
C'est le meilleur acting de catcheur. Vraiment, il tient son personnage. C'est incroyable. Moi, je suis fasciné. Et donc, ouais, on essaiera de vous envoyer ça. Sinon, vous tapez. Oui, c'était quand l'interview?
Il n'y a pas très longtemps, c'était pendant Starcast. Donc
Starcast, voilà. Starcast, Orange Cassidy.
Et puis, il y a un documentaire aussi. Je ne sais pas si tu as
vu. Oui, si, je l'ai vu.
C'est vachement intéressant sur Orange Cassidy. Le fait que, bah, des fois, le comedy wrestling est vraiment ostracisé. Et la preuve, parce que quand il y a eu son annonce de signature, tout le monde a craché dessus, quoi, parce que c'était après le bibliothécaire et tout le débâcle là-dessus. Je pense que les gens voulaient pas encore un truc de comédie.
Non, mais il faut savoir reconnaître la qualité, les amis.
Il a fait un peu son truc un peu rédemptoire.
Non, puis il y a un vrai... le mec sait vraiment se placer, tu sens qu'au niveau de ses moves, c'est très propre. Et puis pour avoir vu, depuis que je suis complètement à fond de balle pour le bonhomme, pour avoir m'être fait une grosse cure de jus d'orange, qu'est-ce que je vais dire, il peut être très strong style. Hein. J'ai vu notamment un match contre, je crois, Noam Dar. Waouh.
Oui, puis c'est un gars qui remonte à l'époque de la Chikara, qui était une des fourmis. Je crois que c'était Fire Ant, une des armées des fourmis, et qui était avec Chuck Taylor aussi. Donc il sait être strong style, entre guillemets. C'est pas forcément son point fort.
Non.
Il sait être surtout voltigeur,
ouais.
Mais perfect. Et franchement, il maîtrise son gimmick.
Ouais. Gimmick, puis au niveau équilibre du corps aussi, c'est, enfin, sincèrement, quand vous le voyez qui se relève, qui fait ses trucs les mains dans les poches,
c'est ouf.
Enfin bref, bon je vais arrêter cette déclaration d'amour que j'ai déjà fait ailleurs pour pas que l'émission fasse deux heures. Oui, c'est ça. Ce qui nous amène donc au match suivant, qui, si le je dis pas de bêtises, c'est le match Joshi.
Exactement.
Voilà.
Donc c'est
avec Mio.
Avec Rio et son nez Mio Rio.
Ouais, on était un peu méchant au niveau code de beauté. Voilà, elle a un grand nez. Nous aussi, on a des trucs physiquement reprochables. Voilà, comme ça, c'est fait.
C'est gentil de dire ça.
Enfin, surtout moi.
Heureusement qu'on fait un podcast, disons.
C'est très post-catholique. Bref.
Et en face d'elle, il y avait la belle et l'imposante Hikaru Shida de la Makai.
Voilà, qui n'est absolument pas exploitée.
Ah non. Non. Et en parlant de la Macaille, n'hésitez pas à écouter le super podcast Voyage au Japon.
Oui, monté par votre serviteur Félix au micro et avec Raphaël et Laure. Très sympa.
Parce que la Macaille, c'est vraiment quelque chose à part entière. Voilà. Si je dois juste dire ça. Et donc, le match Joshi 100%, t'en as pensé quoi?
Alors, ça va vraiment finir par faire blague pas drôle, mais beaucoup trop long. Là, vraiment, je précise, beaucoup trop long. Après, c'est très bizarre parce que tu sens qu'il y a des spots qui sont faits pour faire plaisir, je pense, à un public plus occidental, ce qui fait perdre, je dirais, la spontanéité, le côté alchimie de catch typiquement Joshi, Prolesu, japonais. Pas mal de spots approximatifs.
Le rythme aussi qui était un peu...
Ouais,
je pense que t'as raison. Je pense que c'est vraiment... en même temps, on a envie de leur dire allez-y comme vous le faites au Korakuen Hall, à vous mettre des coups hyper stiff et tout.
Ouais.
Mais en même temps, édulcorer un peu le truc.
Parce que sinon, ils vont pas comprendre.
Parce que le public va pas comprendre, machin. Et du coup, ça donne un truc mi-figue, mi-raisin.
C'est très
un
bizarre.
Un peu poivre.
Ouais. C'est vraiment quand tu tentes des trucs, des sandwichs avec des restes ou certaines salades le soir
dis, ça va le faire,
quand t'es en chien.
Fait,
mais en fait, non.
T'as des petits gargouillés après, tu te dis.
C'est ça, voilà, genre Anne-Sophie Pic et Marc s'ils savent le faire, mais moi non. Donc bref, après cet instant culinaire, non, globalement, il y a quelques petits spots intéressants. Ça permet aussi, c'est l'avantage de la EW, enfin moi je parle pour moi parce que je suis face à des amis d'une connaissance et d'une qualité incroyable quant à l'univers catchesque. Donc,
arrête, je veux remettre mes chaussures
forcément.
Après.
C'est ça. Et non, mais pour revenir à ce qu'on disait, ça m'a permis quand même davantage de les découvrir les deux, même si je suivais d'un peu loin Macaille ou Stardom. Et puis, on arrive effectivement au seul vrai liant.
Oui.
De l'intrigue, sauf si tu avais un autre truc à rajouter,
non.
Qui est donc l'entrée au loin de notre amie championne du Rumble,
Nyla
Rose, qui vient faire plus grrr sexy, hein, parce que entre temps elle s'est refait un brushing, les cheveux lissés, et madame, j'ai
envie
de dire.
Rio qui a gagné ce match.
Ouais.
On te le pardonnera jamais.
On pardonnera jamais à ton gros nez. Donc voilà. Et bon c'est...
Voilà,
il y a au moins ça de placé. On verra bien. On verra bien.
Et je pense que c'était vraiment le match aussi, parce que je vois ce qui va arriver ensuite, parce que j'avais zappé. je pense que c'est vraiment le match en mode bon, on va pas se prendre la tête, quoi. C'est des meufs.
Mm.
En vrai, ça fait un peu ça, parce que quand je te dis qu'après, c'est. Le match de Cody, parce que c'est toujours le match de Cody qui est vraiment sur le devant de la scène et qui est travaillé de ouf. C'est Cody contre Sean Spears. Donc c'est vraiment la viande, c'est ton steak dans ton burger.
Et ça permet juste avant de préciser concernant Nyla Rose, un truc qui continue de m'inquiéter, je ne suis pas le seul, c'est que je fais confiance parce qu'elle elle monte en puissance comme on dit, y a la confiance du public qui suit, etc. Mais niveau cardio, punaise, elle lutte. Hein. Vraiment, elle lutte, donc je sais pas. Surtout sur une annonce de match contre une Joshi qui gambade. Si c'est bien équilibré, elle pourra faire l'essentiel de l'agitation. Et puis, mais quand même, quoi, tu vois, à la fin de son match, elle tirait la langue
bien
quoi,
la
sur
bouquet,
le Rumble.
Quoi.
Ouais,
faut vraiment pas nous faire un Nyla Rose au Some Kong tout de suite. Hein.
Non, c'est certain, c'est certain. On l'avait fait déjà.
Et pareil,
avec
faut,
le
pas qu'il,
threat,
faut pas qu'il dure 20 minutes non plus. Hein.
Surtout. Mais ça, c'est en général, si vous pouvez. S'il vous plaît, écoutez-nous. AEW. Et donc, on arrive effectivement au steak dans le burger, comme tu disais, qui en l'occurrence permet de souligner que on a trouvé globalement, même si on y reviendra à la conclusion, que le public était quand même excessivement tolérant, je trouve. Et là, ça s'est complètement vérifié parce que bon, après, c'est
le
propre c'est le propre de Cody d'enflammer les foules en
Et
général.
Parce que je pense que Cody, il arrive vraiment,
ouais.
Alors que c'est vraiment pas clairement le
non,
meilleur sur le ring.
Il y a un magnétisme globalement.
Un Omega ou un Young ou les Young Bucks, c'est eux les workers quoi du truc.
Ouais.
Mais à chaque fois, il arrive à te raconter une histoire, il arrive à te faire passer des émotions. La All In, c'était le truc de je veux être comme mon père, je veux être champion NWA. Mm. À Double or Nothing, c'est je veux avoir ce match avec mon frère et je veux qu'on se réconcilie, limite. Il y avait toujours cet attachement particulier. Et là, par exemple, c'était Shawn Spears qui avait mal pris le fait que Cody l'avait un peu traité comme juste un bon bosseur, alors que c'est le mec qui lui a appris à catcher et qui a fait ses débuts avec lui, etc. Ce qu'on ne sait pas forcément, parce que Shawn Spears à la WWE, donc Ty Dillinger, il a débuté bien plus tard. Et je trouve qu'il y arrive toujours, mais je trouve que ça remet en question un peu la place des autres dans le show, quoi.
Je suis complètement d'accord, et tu peux rajouter à cette équation, on y arrivera après, sur le tag team battle. Pour l'instant, Cody et les Young Bucks tirent trop la couverture. Je sais pas jusqu'à quel point c'est conscient, et je sais pas jusqu'à quel point c'est se dire il faut quand même qu'on réponde au public, puisqu'ils savent qu'on est les franchise catcheurs, on va dire, les marques fortes de pour l'instant de la EW. Jusqu'à quel point ils veulent pas prendre de risques, est-ce que c'est conscient, inconscient, j'en sais rien.
Pendant ce temps, Omega perd contre Pac et Chris Jericho.
Oui, c'est intéressant parce qu'Omega, en fait, il n'y a pas une construction maboule et il laisse beaucoup plus sa place. C'est vrai que c'est un gros parallèle que j'avais pas fait jusque-là, mais ouais, oui. Bon, peut-être des leçons à prendre, d'ego ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc peut-être tu peux décrire le setup du match qui était. Alors j'en aurais voulu pour un truc, et je suis pas le seul, on a une réaction à un moment, mais on va faire dans l'ordre. Déjà, donc
l'entrée
le
de
code
Sean
couleur.
Spears,
le
déjà,
code
le,
oui.
L'entrée de Shawn Spears, vraiment, je fais mon acting vraiment doucement, vraiment, je me mets
sur une chaise.
Ouais.
Évidemment, la symbolique,
avait... sans musique, en mode je suis un droïde, huez-moi.
Ouais, avec une capuche Assassin's Creed.
Ouais, clairement, mais low budget. Et ensuite, la musique commence et il fait son entrée. Puis
il y avait des paillettes, Kevin, dessus quand même.
Sur la capuche, ouais. Et puis, c'est pour que la lumière, elle se réverbère, tu vois.
Voilà.
Et pour qu'il brille. Et Tully Blanchard, donc une légende de la NWA et père de Tessa
Papa Blanchard.
Et oui, surtout.
Tessa, je t'aime.
Tessa.
Jordan aussi.
On en aime beaucoup.
Hein. Voilà.
À part Rio.
Non, le nez de Rio.
Oui, mais
les
il fait
connards,
partie de sa figure. Bon, on va arrêter avec
ça. Ouais, je crois qu'on va arrêter.
Et donc, il fait son entrée avec ses pupilles à l'arrêt Mysterio. Genre, je suis menaçant.
Ouais, ça venait vraiment de nulle part. Hein. C'est lentille. Bref.
Vraiment, on en fait trop, quoi.
Oui.
Et puis Cody qui fait sa grosse arrivée avec tous ses managers, ou Brandy, elle est en mode Star Trek. Pourquoi?
Ils sont tous en mode Star Trek, quoi. Ils ont la même
surtout Brandy,
ouais,
hein,
surtout
avec
elle.
Son truc super argenté et tout, avec le chien et compagnie. Avec DDP, avec MJF, et puis il arrive, et puis Cody qui sort du sol
avec une plateforme.
La lumière et tout, ouais, voilà.
Plateforme en mode Jackie, tuning.
Un peu, j'avoue. Et puis après il y a le pyro qui se déclenche avec
putain mais alors là never...
et le pauvre chien quoi,
never forgive quoi,
Pharo,
jamais
là, pardonné, son chien blanc adorable,
ouais,
il était
c'est
paniqué
con. C'est con, au lieu de l'éloigner, de laisser passer les pétarades, ils le mettent à peut-être pas 2 cm, j'exagère, mais dans le couloir qui mène au truc, et le pauvre genre il tournait sur lui-même pendant 30 bonnes secondes.
Du coup on était fixé que sur ça.
En même temps, bon voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre que la pétarade et le truc. Et puis, surtout, c'était con pour eux de ne pas avoir anticipé ça, parce qu'ils ont eu, ils ont galéré pour le faire rentrer et pour le faire suivre, parce qu'ils voulaient le garder dans le mouvement du truc. Et tu sens, ouais, voilà, que le clébard, m'avait fait un peu flipper quand même. Donc, bref, voilà.
Et après, le match est arrivé, et puis,
voilà. ce silence qui en dit tellement long.
Exactement.
Ouais, pas grand chose à en dire. Je sais pas quoi en retenir. Un moment complètement absurde aussi où t'as la rencontre à distance de Blanchard avec cette
MJF.
Autre. MJF, effectivement, dans un premier temps. Et puis cet autre Hall of Famer, vieux de la vieille, qui était partenaire avec lui. Non, tu sais, il y a.
Ah, Arn Anderson.
Arn Anderson, qui vient faire une espèce de spear ou de powerbomb.
Spinebuster.
Tu vois, pour te dire à quel point j'ai retenu. Hein. À quel point ça m'a marqué. Voilà.
L'une des plus grosses pop de la soirée en plus. Hein. Bon, ouais. Toi, t'étais un peu endormi pendant ce match-là.
Ah, mais complètement, tu donc, peux le dire. Hein. Franchement, y a, j'ai vraiment café, littéralement piqué du nez. Pourtant, j'ai pas spécialement claqué.
Et c'est pas un show qui est tellement long, parce qu'on a fait le calcul, ça fait quoi 4 heures avec le pré-show.
Ça m'amuse toujours, ce genre de réplique chez les fans de catch. C'est pas très long, 4 heures. C'est comme les gens qui jouent au RPG en jeu vidéo qui font non, mais le ticket d'entrée, ça va, c'est 5-7 heures, et puis après, il te reste 40 heures.
Mais c'est parce qu'en 2019, oui, quand t'as un WrestleMania qui fait 12 heures.
Oui, dans les codes. Effectivement.
Genre, 4 heures, c'est la limite. Au-delà de 4 heures, j'en ai rien à foutre. Je zappe
et je mate.
Mais 4 heures, ça va.
Ça passe. Ouais, mais voilà, pas grand-chose à en dire. Et très inquiet sur l'équation temps. Honnêtement, s'ils réduisaient comme ça globalement les matchs et surtout les leurs... Et puis là, ça marche pas, quoi. Autant ça a marché avec Dustin. Autant là, ça marche pas. Bref, on va pas s'éterniser. Voilà. Je pense que vous avez
juste pour information, Cody, c'est le vainqueur.
Oui, c'est vrai. C'est pas mal quand même de le dire. Voilà. Et c'est Mio qui a gagné. On l'a dit avant Rio. Pardon, c'est Rio qui a gagné avant. Voilà. On l'a pas. Je sais même pas si on l'avait précisé.
Si, je crois que si. Mais d'accord. C'est toujours bien de rappeler qu'elle existe.
Alors que c'est une très bonne catch. C'est affreux. C'est affreux ce qu'on fait.
Et donc, avant dernier match de la soirée.
Oui. On fait de la nasophobie, bref.
Escalera de la muerte.
Yeah, si.
Donc les échelles me
gusta,
de la mort.
También.
Donc les frères Young Bucks contre les frères de la lutte, les Lucha Brothers, pour les titres triple A.
Ouais.
Donc encore un match entre ces deux équipes.
Mm-hmm.
Moi j'étais très inquiet parce que j'en avais un peu marre de les voir catcher ensemble.
Pareil, et t'en avais surtout marre d'un truc.
Le Cero Miedo.
Non, c'est Cero Nero.
Non, c'est Cero Miedo.
Non, c'est Nero.
Je n'ai pas peur.
T'es sûr? Zero
Fear.
Non, c'est...
Attends, Lucha Underground.
Je suis un professionnel.
1 à 4.
D'accord.
Ça va.
Espagnol LV2, quoi.
Ouais, en plus.
D'accord, mais je crois que j'étais persuadé que c'était Cero Nero.
Il y a bien une chose dont je me rappelle de l'espagnol, c'est Cero Miedo.
Ah, Tener Miedo.
Ouais, surtout pour ce match.
D'accord. Me gusta la lucha. Yo también. mais donc, on a résolu ce mystère-là. Match, effectivement, vu-revu. Bon. Des échelles.
Puis en plus, Phoenix, je crois qu'il était blessé à la jambe. Donc je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, il va se casser la gueule. Alors que c'est vraiment typiquement le meilleur catcheur des quatre. Et vraiment un des catcheurs qui devrait pousser jusqu'au ciel.
Oh.
Si ce n'est plus haut. Et puis finalement.
Mais t'as pas dit l'autre truc dont on avait marre? C'est justement, cool. On a mis un compteur sur les Cero Miedo. Donc j'avais parié sur 7 et je suis tombé pile poil. Il y en a eu 7 Cero Miedo.
Il y en a un qu'on a loupé, je crois.
Je sais pas.
Parce que
j'ai pas compté ceux du début. Que dire à part des évidences Spotfest à gogo, beaucoup trop.
En fait, c'est un Spotfest à gogo.
Ouais.
Genre vraiment plus chorégraphié, on sent le truc préparé.
Ouais.
Moi, je vais faire mon vieux fan de catch, mais ça commence à me saouler.
Au point où il y en a une qui nous a fait autant plaisir que rire, c'était Phoenix. Voilà, le
beau lapsus. Pas dans le match.
T'as vu qui à un moment fait un saut au travers de, vous savez, de, je sais pas comment ça s'appelle, comme quoi, apprends-toi aussi, enrichis ton vocabulaire français. Les deux tiges métalliques qui retiennent ouvertes une échelle, et donc il a sauté entre les deux et il a explosé la gueule à, je sais plus
quel des deux frères Jackson. Il a fait un destroyer, non?
C'est ça, hein,
je crois. Hein.
C'est ça.
C'est plutôt bien exécuté.
Ouais, mais... il y a eu un truc un peu genre j'y vais mais j'ai peur.
Ouais.
Comme disait Balasco, je crois.
Et en fait, je trouve ce qui était le plus impressionnant, parce qu'on avait vraiment besoin de se réveiller. Honnêtement, c'était.
Félix
en fait,
m'a mis des petites
claques. Mais c'est vraiment le côté morbide du fan de catch, quoi. C'est ce qui nous a réveillé, c'est les accidents, quoi.
Ouais.
Genre quand Nick Jackson se fait pousser. Par Pentagon qui était vraiment en mode je joue avec le public, est-ce que je vais le pousser? Je vais le pousser, oh là là, je l'ai poussé!
Ouais.
Et Nick Jackson qui se prend les cordes et qui se ramasse la tête contre la table en contrebas.
C'est chaud.
Ouh, arrêtez de nous faire peur, quoi.
Ouais. Là, c'était vraiment pas utile.
Mais ça nous a réveillés en vrai.
Ouais. c'est malheureux, ouais, de se dire
que c'est ça. Et c'est dire, encore une fois, on en a déjà esquissé un peu l'argument, c'est que les fans de la AEW. Sont gentils, quoi. Parce que on en a vu des dizaines des matchs de l'échelle comme ça.
Mm-mm.
Et il y a que ces moments d'accident ou de oulala, vous allez trop loin, les mecs. qui nous réveille, quoi.
Ouais. Ça, ça en dit long. Après, qu'est-ce que je voulais dire, mon gars, heureusement, quelques spots réussis. L'exécution, globalement, reste. Il n'y a pas de souci. Ce sont des professionnels. Et
n'essayez pas ça chez vous.
Voilà.
On vous en prie.
Et puis, bah, victoire des Lucha Brothers.
Yes.
Donc,
bon. Mais difficilement, hein, parce que. Et ça, ça t'a fait réagir. C'est quand. Je crois que c'est Matt Jackson, alors que son frère était en train de mourir à l'extérieur. Il a enlevé le masque de Pentagon.
Ça m'a fait beaucoup rire, ça.
Surtout quand Pentagon, après, qui est obligé de se cacher le visage, pousse l'échelle avec son autre bras. En mode, je vois rien, mais je pousse. Ça, c'était ouf.
C'était extraordinaire, ça.
Mais c'est dire ce qu'on retient du match quand même.
Voilà, qui me parle, c'était vraiment le truc. Non, oui, c'est voilà, c'est t'as résumé, c'est dire ce qu'on retient
les
du match.
Dans le
et
noir.
Pourtant, le match, au moment où on enregistre, on est transparent jusqu'au bout. Là, ça fait même pas une demi-heure, une heure qu'on a fini de regarder, quoi. Donc, c'est vous dire à quel point ça pourrait être frais,
pour le coup,
mais non.
Et là, pour le coup, j'avoue que Mehdi à essayer de me tenter sur zap un peu des moments des matchs et tout parce que c'est moi je lui dis non on va en parler après dans le podcast faut qu'on y aille mais il y a des moments sérieusement on a zappé un petit peu
c'est pas sur celui-là c'est vraiment à la fin qu'on
oui c'est plus à la fin mais sur celui-là il y avait des moments quand il y a eu des grosses chutes on s'est dit
bon, on était tenté
on va comprendre qu'il y a plein de replays et tout c'est bon.
Voilà
et puis juste avant le dernier match de la soirée arrivent deux mecs dans des masques de président des États-Unis
Bill Clinton.
Moi j'ai cru que c'était Vince McMahon
Kennedy.
En mode je ne pense qu'au catch. Et je me demandais qui était l'autre. Et en fait c'était Bill Clinton
et Kennedy.
Et Kennedy.
Kennedy. Rien à voir.
Et
c'est pour Michael, deuxième dédicace. Non, c'est vrai parce qu'il l'aimait beaucoup.
C'est vrai
ouais, il aimait beaucoup ce catch.
Ah bah pour le coup on a un point commun.
Voilà. qui n'est pas CM Punk.
Exactement. Oussa Dada. De la merde.
On s'expliquera plus tard.
Et donc ils tapent les Lucha Bros,
oui.
Ensemble. Et puis ils enlèvent leur masque, évidemment. Et ce sont les LAX 2.0 de l'Impact Wrestling qui n'étaient plus sous contrat. Donc Santana...
Qui ont arrêté de travailler pour l'aéroport
de Puerto Rico. Et donc c'est Santana et Ortiz. Donc une super équipe, elle aussi. Mais j'ai encore une fois une peur. C'est-à-dire que LAX et les Lucha Bros. Ils ont fait toutes les compagnies indépendantes des États-Unis depuis 2 ans et ils nous mettent une feud entre les deux.
Faut pas pousser des mémés dans les orties.
C'est un peu ça.
Voilà, comme ça elle est placée. Je me disais j'attendrai le prochain numéro, mais c'est fait. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Non, bah je crois pas.
Peut-être
pas
rien.
Grand chose. Rien. On va passer.
C'est bien.
Voilà. C'est mieux si. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que je disais on s'expliquera pour Sanada, mais en fait on l'a déjà fait quand on a enregistré notre émission du J1 Climax. Et on arrive à la fin. This is the end.
My friend.
Il fallait y arriver.
On est bien contents qu'on y soit.
Donc, Chris Jericho contre Hangman Page qui est arrivé à cheval.
Eh oui, il l'avait promis.
Il l'avait promis,
il l'a fait.
Voilà. Escorté, effectivement, pour éviter que le cheval s'énerve. Ce
nous fasse une féro
voilà,
en panique.
Oui, voilà. Sauf
et
que là,
défonce le public à coups de sabots.
Ça, voilà.
Là, au moins, on aurait retenu un truc du show.
On est dur.
Et donc oui, premier, enfin match
dernier
inaugural.
Match.
Non, mais surtout match,
match
inaugural
de la fin.
Mais non, match inaugural pour le championnat du monde
c'est
de la AEW avec cette magnifique ceinture qu'on n'avait pas réussi à avoir à cause de Bret Hart.
Tout à fait.
Qui avait mal fait.
Non, c'est pas lui qui avait mal fait, c'était les caméramans.
Oui, c'est
ils avaient mal fait leur plan. Non, faut pas. Le pauvre, déjà, il diminuait, il vient.
Des fois, voilà. Dire qu'il est un peu vieux. Je suis vraiment méchant. Quand même.
Il devrait faire ça pour le Taker, tu vois. Il vient, il présente des ceintures
plutôt que
de catcher encore.
Pour le Taker, il devrait arrêter de l'utiliser, c'est tout.
Non, mais s'il vient, il présente des ceintures.
Mais
c'est
il devrait
bien.
Pas venir, ça suffit.
Ou alors il devient champion.
Il a déposé son chapeau,
non,
ses
il vient...
bottes, ça
non,
suffit.
Non, non, il devient champion 24/7.
Oh mon dieu. Ça devient... À la limite, ça pourrait être marrant parce que
ça pourrait être super drôle.
Ça deviendrait la DDT, tu vois.
Ça pourrait être super drôle. Voilà. Bon, McMahon, on est freelance hein, au niveau de l'écriture du script
ton
writing.
Écoute-nous.
Voilà. C'est ça. Voilà, Félix a déjà un peu spoilé en disant qu'on a quand même eu la tentation du fast forward, donc de l'avance accélérée. Ça en dit encore une fois long, très poussif quoi, comme match. Encore une fois, excessivement long.
Parce qu'ils veulent se la jouer, gros main event, sérieux.
Ouais,
etc.
Et ça marche pas du tout. Ça a bien marché pour les précédents, avec Jericho ou sans Jericho, mais là, ça marche pas. Franchement, ça marche pas. Il y a eu un moment, un instant blading, parce que là, c'est en train de devenir la marque signature de la EW.
L'ont revendiqué, oui. On fait du sang, des tripes.
Ouais, voilà, c'est ça.
Enfin, pourquoi pas, pas, mais bon.
Les tripes, je préfère que ce soit dans mon assiette.
C'est pas assez... Bizarrement, je m'y attendais plus pour le match entre Cody et Shawn Spears, parce que c'était un grudge match, comme on dit dans le jargon. Donc, un match vraiment... de haine, quoi. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce.
Drunker.
C'est un peu ça. Et alors que là, c'était censé être un match de championnat, certes, avec des ressentiments des deux côtés, enfin, au niveau kayfabe en tout cas, mais il n'y avait pas forcément besoin de sang, quoi. Mais bon, après...
C'est... Bon.
Moi, je suis plutôt fan de ce genre de truc, donc je vais pas...
Non, mais c'est toujours le même problème. À la limite, c'est pas tant le blading qui était choquant, c'est encore et toujours l'exécution, le timing, le rythme du match, sa durée, mais vraiment déroulé. Et puis pareil, quoi, Jericho, c'est pas qu'il tient pas la route, il arrive quand même encore à... Mais il galère, quoi, vraiment de plus en plus.
Quand il a essayé le Lion Salt, là, avec Eggman, il l'a arrêté dans son élan.
Ouais.
J'ai eu peur. Un jour, il va se le prendre sur la nuque. Il va nous faire une Hayabusa.
Et puis Paige, je sais pas ce qu'il avait sur le match, mais il galérait, quoi.
Non, c'est Paige. Enfin, ça, c'est moi qui parle.
Ouais.
Paige est un très bon catcheur.
Ouais.
Mais je pense qu'on place énormément d'espoir sur ce petit bonhomme. Bon, c'est pas un petit bonhomme, quand même, c'est un adulte. Mais, mine de rien, il est loin du niveau des... il est loin des niveaux des Omega et compagnie, quoi. Faut pas s'attendre au ciel avec lui. Il est
petit
très bien.
Petit ange parti
et
trop
d'ailleurs,
tôt.
Je suis très content. J'espère pas qu'il va partir. Mais d'ailleurs, je suis très content d'avoir gagné notre petit pari de la fin. Du fait que c'est Jericho qui a emporté la ceinture.
Voilà.
Parce que je pense que Paige est pas prêt. Je pense qu'il faut le construire à la fois au niveau personnage en connexion avec le public, mais il faut qu'il se construise lui-même, en fait.
Ça,
ils
avaient
réussi... fait beaucoup de promos de babyface, mais c'est toujours un peu forcé.
Ironiquement, ils avaient réussi à commencer à faire créer ce lien-là à la NJPW, quand il y était encore.
Un petit peu.
De la même manière qu'un Robinson qui a complètement transformé l'essai.
J'ai repensé la dernière fois, quand j'ai vu...
Sanada.
Non, lui je ne le vois pas.
Pourtant, non, vu les capillaires.
Quand j'ai revu la promo de Paige dans un parc avec les petits enfants là.
Oui, c'était trop bien ça. Il a enregistré son message de genre de menace.
Où il s'est frappé lui-même et tout. Je me dis, les pauvres enfants qui ont dû voir
ça.
Et il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Il a le potentiel d'être le babyface à la Sting en mode. Héros, super-héros. Mais,
il lui faut de la peinture.
Mais j'étais plus intéressé par Paige quand il était en mode limite schizophrène dans Being the Elite l'an dernier où il y a
face à Joey Ryan.
Où il avait soi-disant tué Joey Ryan.
Mm.
Il s'éclatait plus et il tentait plus de trucs.
Ouais.
Et ça marchait.
Ouais.
Alors que là, il est censé être le babyface numéro 1 de la compagnie et c'est pas ça encore.
Ça pourrait le faire, comme je te disais, moi, comme il a fait à la NJPW, mais bon, faudrait vraiment qu'il continue de lui faire confiance et on verra bien. Mais bon, là, en tout cas, le résultat, relativement, bon, t'as eu le nez fin, effectivement.
C'est un move.
Comme Rio.
Non, pas comme Rio. c'est un move conservateur, certes, mais je pense que c'est bien. Tu mets un champion vraiment irascible.
Champion
au top de la AEW pour les prochaines semaines à venir, enfin quand le show TV commencera.
Oui.
Le but ce sera de le détrôner. Il va faire son despot, etc. Voilà, on te place déjà des angles narratifs faciles, mais on sait qu'il va assurer dans le rôle Jericho.
Et là, je t'avoue, on arrive au point de conclusion globale. C'est quid d'une régularité hebdo, ou même une fois toutes les deux semaines, quoi. Parce que là, déjà, comment il galère sur les rythmes identiques. Autant on vous a dit ce qu'on attendait par rapport aux annonces de la team créative de la EW, nous, quand il faut troller, on essaie de faire en sorte que ce soit toujours constructif. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire, on a beau, moi et Félix en particulier, on va pas mettre toute l'équipe du Catch à Casse dans le même bateau, parce que Michael, par exemple, continue de suivre. Et c'est bien, parce que ça permet d'avoir cet éclairage-là. La WWE, nous, beaucoup moins. Mais honnêtement... face aux gens qui sont en mode fantasmé, ouais, c'est la relève, c'est, on n'aura plus de rythme et de gimmicks chiants et de trucs. En l'état des choses, moi je suis pas du tout, je dirais pas emballé, mais c'est pas tout de suite quoi. Ouais, c'est vraiment pas tout de suite.
Surtout si ça y est, on va dire, ils commencent à se mettre en tête de nous proposer un produit soi-disant sportif. Bon, c'est du catch, donc c'est forcément soi-disant, mais dans l'apparence, on va dire, dans la présentation, parce que là, à All Out, ils nous ont sorti les statistiques de chacun des catcheurs, mais déjà, c'était même pas mis en avant, et en plus, ça sort de nulle part, parce qu'ils nous l'avaient promis dès Double or Nothing, et c'est que maintenant qu'on l'a.
Ouais.
Et puis même, les matchs en question sont longs, sont mal rythmés, sont pas forcément d'une qualité New Japan qu'on peut attendre d'un produit sportif. Et au niveau storyline, bah, par exemple, le fait que Jericho gagne et qu'on s'arrête là-dessus, même si, bon... on s'attendait, enfin on pensait tous à un CM Punk qui était pas très loin, on savait qu'il allait pas venir, ouais. Mais c'est toujours le petit espoir, parce qu'en fait ça aurait été CM Punk ou quelqu'un d'autre, mais qui arrive et qui fasse une grosse surprise à la John Moxley pendant Double or Nothing,
ouais.
Qui marque le coup avant que le show télé commence et qu'on se dise ok, on va avoir des belles histoires, on va avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inédit. Bah, pour l'instant c'est un show de catch plan quoi.
C'est ça, comme un show de catch sans trop de fulgurance hebdo de la WWE, et je dis pas ça en forcément que dans le mauvais sens, sauf que la WWE derrière, ils sont impeccables niveau vidéo, ils sont impeccables niveau régie, affichage, stats, machin, c'est une mécanique qui
même
a des décennies...
Même sur la présentation est vieillotte et reste à désirer.
Ouais, on est d'accord.
Reste à désirer, mais...
Mais c'est carré. C'est carré, et le souci, voilà, la EW, elle n'y est pas.
Ouais.
Sans compter que tu faut rajouter derrière l'usure, même s'ils sont une fois toutes les deux semaines, il faut rajouter la fatigue, les transports, etc. Parce qu'ils vont faire, ils vont pas rester que dans une seule ville, non ? Ils vont bouger.
Pour la EW, oui. ils vont être dans une seule ville par show. C'est-à-dire que, par exemple, le premier show, c'est à Washington,
ouais.
Et c'est toujours en live. Donc le deuxième show, c'est, je sais plus, à Philadelphie.
Putain, ça sera
etc.,
à chaque
etc.
fois en live.
Mais pour l'instant, ils font pas de house show, de show non télévisé. Ils vont faire que des shows hebdomadaires. Donc au niveau rythme, ça devrait le faire.
Ok, ouais. Mais je reste quand même, je t'avoue, un peu inquiet.
Ouais.
Je confiant, mais inquiet. Très bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on aura fait un joli tour. Oui, tu avais encore...
Juste un petit point bilan. Sur les 4 shows AEW, oui. Tu le placerais où, lui ? All Out.
C'est une bonne question. Je pense que le Double or Nothing reste globalement le premier, suivi de très près. Tu englobes All-In dedans ? Dans
ouais,
les 4 ?
Englobons
All-In. Avec All-In, ça ferait 5 ?
Yes.
All-In, je pense que je le mettrais à égalité, ça pourra surprendre, avec le partenariat CEO. Parce que je trouve que le partenariat avec CEO, il y avait un bon équilibre pour des univers
et
qui n'étaient pas...
La carte était moins dense.
Elle était moins dense, c'était... Voilà.
Puis il y avait des matchs découvertes, quoi. Cody contre Darby Allin.
Exactement, ils ont introduit Shima. Voilà, il y avait quand même une variété. Les matchs n'étaient pas trop longs. Enfin, donc voilà, ce qui nous laisse du coup... Là, il reste quoi ? Il reste
Fight for the Fallen.
Et All Out. Ouais, peut-être ces deux-là avec Zeko en troisième, ouais. voir c'est dur ce que je vais dire, ça me fait mal à la tronche, mais vu le... Non, je pense que All Out reste dernier. Bah, pourquoi ? Parce que finalement, le Fight for the Fallen, il y avait quand même quelques petits figurants et quelques trucs plutôt encourageants qui sont un peu encore retombés et que les leçons n'ont pas été... Mais genre dernier, pas pour être dernier, mais se dire, voilà, là vous allez vraiment promettre de tenir l'idée que vous allez apprendre de vos erreurs. Parce que là, vous le tatanez depuis un moment, bah là c'est le moment, vous allez passer
ouais,
en mode...
Parce que c'est ce que disait Cody dans sa conférence pendant StarCast, c'est que il assume que ils vont faire des erreurs et ils vont les enchaîner.
Ça, il y a pas de souci, on s'entend bien. Hein.
Et qu'il a fait remarquer aussi que par exemple sur l'épisode du bibliothécaire, ils ont changé d'avis sur la question, etc. Mmh. Donc ça montre que ok, elle est pas parfaite l'équipe.
Ils ont cet avantage là.
Mais
elle a du cœur.
Puis ils sont ok pour s'adapter quoi. Ils sont pas bornés.
Oui.
Mais ouais.
N'abusez pas de votre capital sympathie. C'est ça qu'on a envie de dire parce que nous, on a un peu.
Il est très élevé pour l'instant.
Ouais.
Mais
moi, il s'est quand même modifié contrairement au public là-bas.
S'il propose pas un produit inédit, différent, travailler, ça c'est sûr. Mais au moins ces deux choses-là. Surtout en plus maintenant qu'il va y avoir NXT en face. Bon, ce sera un NXT différent parce que il y aura forcément Vince McMahon. En train de parasiter tout ça, ça va être chaud hein, en vrai.
Oui, ça l'est déjà et ça va l'être davantage. Bon, bah écoute, on verra. Rendez-vous courant octobre et puis on essaiera de faire le point avec vous. Bah, comme d'habitude, avant de vous définitivement vous saluer, de venir vous donner bientôt rendez-vous, n'hésitez pas, comme d'hab, à nous faire donc des feedbacks. Là, on a eu quand même des émissions assez sympa, assez dense. On reprendra certainement les couvertures d'événements APC et compagnie. C'est vrai qu'on n'était pas spécialement revenu d'ailleurs sur le show APC Progress qui s'est passé.
C'est bien aussi de profiter d'un show sans penser à la critique.
Exactement.
Mais c'était un bon petit show, on va dire.
Ouais. C'est pas systématique, mais venez, n'hésitez pas à nous balancer vos opinions, là, de vos commentaires sur nos émissions en soi. N'hésitez pas à être curieux et curieuse aussi, hein, typiquement l'émission sur le catch japonais. Même si vous n'allez pas pour écouter en soi, on essaie vraiment de construire les émissions pour qu'elles soient, je dirais, même culturellement intéressantes. C'est-à-dire, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est l'idée de vous faire voyager sans forcément aller suivre la fédération de catch en soi, parce que c'est vrai que Raphaël et Laure nous parlaient de vachement d'anecdotes par rapport au pays. Voilà, c'est rigolo en soi, même si on ne va pas forcément suivre les fédérations en question. Et puis que c'est difficile, objectivement, de les suivre, parce qu'il n'y a beaucoup de canaux.
Ne serait-ce que pour un côté pratique, je trouve que c'était pas mal.
C'était vraiment chouette.
Du budget, c'était pas forcément très pointu, mais au moins ça te donne une idée globale.
Un guide du routard, comme j'ai dit, du catch japonais. Et puis en règle générale, voilà, nous on est prêts, notamment Félix sur son Twitter.
Et oui, Twitter, @PHELYKS_G.
Voilà. Et puis moi-même, donc D_MEHDI, Félix en complément, donc sur l'exception catchesque.
.wordpress.com.
Exactement. Et puis le The Alt, donc
sur Facebook.
Le groupe de toujours.
Que des actus fun et décalées sur le catch non WWE.
Donc typiquement, vous pourrez voir popper du Orange Cassidy de moins en moins, parce qu'il se mainstreamise un petit peu avec ce qu'on a vu. Et puis voilà, on en profite pour faire un coucou à l'ensemble de l'équipe CatchaCast. On va pas dire qu'il va y avoir une grosse pause, mais peut-être avoir un peu de flottement courant septembre, octobre, soit pour les reprises boulot, soit pour des congés, etc. Donc comme ça, on vous prévient que vous soyez pas trop surpris. On essaiera de garder sous le coude pour vous envoyer ça, que vous soyez pas trop en manque. Et puis surtout, n'oubliez pas que CatchaCast, ça fait partie du grand groupe, de la grande famille des podcasts, et que vous avez plein d'émissions sur la culture pop, jeux vidéo, des podcasts cinéma, d'impro, cinéma, et
un empire, donc
allez-y, on vous dit à bientôt, on vous fait des bisous, et puis reprenez bien si c'est la reprise de boulot, reposez-vous bien si vous partez, et à plus, ciao. Retrouvez CatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ Podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.